de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2020. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. Et ensuite, vous allez écouter magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Construire une nouvelle capitale, bâtir une confiance internationale. Erick Thohir veut faire le port de Benoa à Bali comme port mondial. L'Indonésie aura un fonds de dotation. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN au Vietnam. 45 millions de personnes meurent de faim dans toute l'Afrique australe. Les grèves contre la réforme des retraites en France ont provoqué une augmentation du nombre d'accidents sur l'autoroute. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. La participation de personnalités internationales au Conseil de développement de la nouvelle capitale du Kalimantan Oriental vise à renforcer la confiance internationale, comme l'a déclaré le président Joko Widodo après avoir assisté à la réunion annuelle de l'industrie de services financiers 2020 à Jakarta jeudi. Ces personnalités internationales sont Sheikh Mohammed bin Zayed des Émirats Arabes Unis, Tony Blair, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, et Masayoshi Son, PDG de SoftBank du Japon. Selon le président, les trois personnalités sont une bonne expérience dans le développement des villes.
Membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan.
Instaurer la confiance, ils ont une bonne expérience dans le domaine du développement urbain. Comme par exemple le chef Mohammed bin Zayed Al Nahyan a de l'expérience dans la refonte complète de la ville de Abu Dhabi en construisant une nouvelle ville appelée Masdar City et a une très bonne réputation dans le monde. Et ensuite, Masayoshi Son, qui a aussi une bonne réputation dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la finance. Ces figures sont nécessaires. Et ensuite, Tony Blair a une bonne réputation dans le domaine gouvernemental. Je pense que ce que nous voulons construire, c'est une confiance internationale dans ce que nous voulons faire. Avec la présence de ces personnalités, le président Jokowi espère que les investisseurs pourront faire confiance au développement de la nouvelle capitale indonésienne. En conséquence, ils sont intéressés à investir dans le projet. Auparavant, le président a invité tous les principaux investisseurs à investir dans ce pays, y compris dans le cadre de la construction d'une nouvelle capitale. Le ministre des Entreprises d'État, M. Erick Thohir, veut faire du port de Benoa à Bali comme port de classe mondiale. Il a déclaré que le plan pour développer le port de Benoa est un port de classe mondiale, combine les services portuaires, les affaires et le tourisme. Erick Thohir dans sa déclaration officielle à Jakarta jeudi a déclaré que Benua deviendra plus tard une zone de guichet unique équipée d'un centre des arts, du tourisme culinaire et d'un centre commercial pour le micro, petite et moyenne entreprise et aussi d'une salle de congrès. Selon lui, les grands navires de croisière qui accostent, bien que le temps de transit ne soit que peu de temps, ils peuvent toujours du shopping et également profiter de la cuisine. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie aura bientôt des règles relatives au fonds de dotation pour accueillir plus d'investissements qui auraient la possibilité de passer par des instruments avec le concept. C'est ce qu'a déclaré le président dans ses remarques lors de la réunion annuelle de l'industrie des services financiers 2020 à Jakarta jeudi. Il a déclaré que l'institution souhaitait actuellement investir par l'instrument de fonds de dotation en Indonésie. Selon le président, cette opportunité doit être accueillie. À cette occasion, il a indiqué que le secteur financier indonésien était globalement stable. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Un homme de la préfecture de Kanagawa au Japon a été testé positif au virus corona après avoir visité la ville de Wuhan en Chine. Le cas a été révélé jeudi par le ministère japonais de la Santé. Une épidémie de pneumonie chinoise causée par un nouveau type de virus corona a frappé la ville de Wuhan en Chine. L'homme a été soigné pendant plusieurs jours à l'hôpital. Il a été libéré après la disparition de symptômes. Mercredi, le département d'État américain a publié une mise à jour sur avertissement sanitaire lors d'un voyage dans la région de Wuhan. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Dato' Saifuddin Abdullah, dirige la délégation malaisienne au Vietnam pour assister à la réunion du ministre des Affaires étrangères de l'ASEAN à Nha Trang, Vietnam, du 15 au 17 janvier. Un communiqué de presse du ministère malaisien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le ministre Saifuddin était accompagné de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Un communiqué de presse du ministère malaisien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le ministre Saifuddin était accompagné de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. La réunion de Nha Trang est la première réunion prévue pour les pays membres de l'ASEAN, présidée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, des secrétaires généraux de l'ASEAN et des autres fonctionnaires de tous les pays membres de l'ASEAN. Les questions qui seront examinées par le ministre des Affaires étrangères comprennent le renouvellement de la mise en œuvre des décisions prises lors de la 34e et 35e sommet de l'ASEAN, tenu sous la direction de la Thaïlande en 2019, et des initiatives pratiques pour faire avancer l'agenda et la principale priorité des dirigeants de l'ASEAN au Vietnam. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, le Programme alimentaire mondial, a noté que le nombre de personnes affamées en Afrique du Sud a dépassé le record, soit environ 45 millions de personnes dans la région. La Communauté de développement de l'Afrique australe, qui compte 16 pays membres de l'Afrique australe, face à l'augmentation du nombre de personnes qui meurent de faim. La plupart d'entre eux sont causés par la sécheresse, inondations et le chaos économique. Le directeur régional du Programme alimentaire mondial sud-africain, Lola Castro, a déclaré jeudi que la crise de la faim était une ampleur qu'il n'avait jamais vue auparavant et les preuves ont montré qu'elle empirait. Le Zimbabwe, qui était autrefois un grenier à pain à l'Afrique centrale, a connu sa pire crise économique au cours de la dernière décennie. L'effondrement économique a été marqué par la flambée d'inflation, la pénurie de nourriture, de carburant, de médicaments et d'électricité. Depuis la grève des transports qui a paralysé la ville depuis décembre dernier, le nombre de personnes louant des vélos et des scooters pour se déplacer a considérablement augmenté. Les accidents dans les véhicules à deux roues dans la capitale ont augmenté de 30% en décembre dernier, avec 600 accidents enregistrés entre 15 et 14 décembre. Seulement 600 accidents s'étaient produits. L'événement exact de l'accident n'était pas clair, sauf que certaines des routes principales menant à Paris étaient fermées, déclenchant une congestion qui s'est propagée aux environs. C'est ce qu'a rappelé RFI sur son site internet jeudi 16 janvier 2020. Selon RFI, avant la 6e grande manifestation, il était signalé qu'un cycliste circulant sur une localisation Vélib a été tué peu avant 8 heures du matin lorsqu'il a été heurté par un camion de 35 tonnes près de la porte de Clichy au nord de Paris. La police a également noté une augmentation de 26% des cas accidents de la route et de 11% des admissions à l'hôpital. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Serge Ritter, voici le commentaire et pour le titre « Après l'accord pacifique du commerce entre les États-Unis et la Chine ». Il n'y a pas de tempête sans vent, il n'y a pas de guerre qui dure éternellement. C'est peut-être la bonne expression pour décrire la nouvelle phase des guerres commerciaux aux États-Unis et en Chine qui ont eu lieu pendant environ 2 ans et qui ont provoqué un ralentissement de l'économie mondiale. Le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He ont signé mercredi 15 janvier la première phase d'un accord de paix lors d'une réunion à la Maison Blanche. Bien que cet accord de la première phase ait été signé, les États-Unis continueront d'imposer des tarifs sur les marchandises importées de Chine jusqu'à ce qu'il y ait un accord de la deuxième phase. Cependant, les États-Unis ont accepté de suspendre les tarifs sur un certain nombre de produits électroniques d'une valeur de 160 milliards de dollars américains. Le tarif est valable le 15 décembre 2019. Cet accord de la première phase devrait être en bon début après que les deux pays soient impliqués dans une guerre commerciale. Mais, c'est notre plus tard, de nombreuses parties doutaient encore de ce qui se passerait après la signature de cette première phase de l'accord commercial. Ce qui peut être souligné, c'est que dans cet accord, la Chine achètera plus de marchandises aux États-Unis. Ainsi, cela ouvrira légèrement l'impact des guerres commerciales que l'Amérique a ressenti depuis 2 ans. Il paraît que l'accord qui a été signé a produit plusieurs victoires pour les États-Unis, parce que la Chine a accepté d'acheter des marchandises américaines d'environ 200 milliards de dollars américains de plus au cours des 2 prochaines années et que les entreprises américaines auront davantage accès au marché chinois et plus de protection de la propriété intellectuelle. Mais en effet, l'économie chinoise obtiendra l'encouragement à court terme dans l'accord commercial. Les mesures de stimulation, telles que l'augmentation des dépenses des gouvernements locaux, la baisse des impôts et l'augmentation du crédit bancaire, en ce sens, le FOP peut également aider à réduire la détérioration du climat des affaires et des investissements en Chine. Enfin, quel est l'impact sur le monde global dont l'économie a également été affectée par la guerre commerciale américano-chinoise jusqu'à présent? En 2020, les taux de droit appliqués ou annoncés feront chuter la croissance économique mondiale de 0,8%. Cela a été révélé par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Les conditions économiques mondiales ont déjà été affectées par la guerre commerciale qui a eu lieu au cours des 2 dernières années. Bien sûr, la communauté mondiale se félicite de la première phase de l'accord commercial entre l'Amérique et la Chine, avec une note que les effets d'une guerre commerciale ont besoin de temps pour récupérer. Les conditions entières de la Chine et de l'Amérique et du monde, nous espérons que la prochaine phase de l'accord commercial accélérera immédiatement l'amélioration de l'économie mondiale. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 17 janvier. Le 17 janvier 1961, le dirigeant congolais Patrice Lumumba a été tué. Patrice Lumumba était le leader anticolonial de l'Afrique et le premier ministre de la République démocratique du Congo qui a été élu démocratiquement après l'indépendance de la Belgique en juin 1960. Patrice Lumumba a restauré la dignité de son pays, mais a été conquis par l'Ouest, en particulier la Belgique, la France et les États-Unis. Les trois pays ont ensuite conspiré avec le régime local au Congo, les chefs tribaux et militaires pour renverser Lumumba. 10 semaines plus tard, la direction de Patrice Lumumba a été renversée par un coup d'État. Il a ensuite été emprisonné et tué le 17 janvier 1961, une action menée avec l'aide du gouvernement belge. Enfin, en 2002, le gouvernement belge a officiellement présenté ses excuses au peuple congolais pour son implication dans le coup d'État et le meurtre de Patrice Lumumba. Le 17 janvier 1948, l'accord Renville a été signé par l'Indonésie et les Pays-Bas. L'accord Renville est un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas qui a été signé le 17 janvier 1948 sur le pont du navire de guerre américain en tant que lieu neutre, l'USS Renville, qui était ancré au port Tanjung Priok à Jakarta. Les négociations ont commencé le 8 décembre 1947 et ont été courtillées par la Commission des Trois Nations, KTN, le Comité des Bons Offices pour l'Indonésie, qui était composé des États-Unis, de l'Australie et de la Belgique. Le contenu le plus important de l'accord Renville est que les Pays-Bas ne reconnaissent que Java Central, Yogyakarta et Sumatra comme territoire indonésien, qu'il existe une ligne de démarcation des territoires indonésiens et néerlandais et que l'armée indonésienne doit quitter les zones contrôlées par les Hollandais. Cependant, l'accord Renville est devenu brut après que les néerlandais ont lancé une agression à Yogyakarta et arrêté le président Sukarno et le vice-président Mohamed Hatta. Le 17 janvier 1995, un gros tremblement de terre a secoué la ville de Port Kobe. Un tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle Richter a détruit la ville Kobe au Japon et a fait plus de 6 400 personnes mortes et fait plus de 300 000 personnes sans abri. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée « C'est toujours toi et là » chantée par Abdul. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique « Mon Indonésie ».
Chers amis, l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie et le Royaume-Uni conviennent d'augmenter leur coopération dans divers domaines ». La Grande-Bretagne est un partenaire commercial important en Europe et un investisseur majeur en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mahendra Siregar, lors de la visite de la ministre britannique des Affaires pacifiques, Heather Wheeler, au ministère des Affaires étrangères à Jakarta mardi. Dans sa déclaration écrite mardi, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mahendra Siregar, a déclaré que la Grande-Bretagne était une priorité importante pour renforcer la diplomatie économique d'Indonésie dans la zone européenne. Les deux pays ont convenu de croître la coopération économique dans les domaines potentiels tels que le commerce et l'investissement, les industries créatives, y compris la technologie numérique dans le secteur financier ou fintech, les énergies renouvelables, l'éducation et le développement des ressources humaines, le maritime, etc. La ministre Heather Wheeler a répondu positivement à la déclaration du vice-ministre indonésien des Affaires étrangères et a convenu de continuer à renforcer la coopération entre les deux pays, principalement afin d'améliorer les performances du commerce bilatéral, y compris l'investissement et l'éducation, par le biais du mécanisme d'examen du commerce. Ceci est considéré comme important, comme une étape concrète dans la préparation d'une coopération économique globale entre l'Indonésie et le Royaume-Uni après le Brexit, afin qu'elle puisse offrir de plus grands avantages économiques aux deux pays. Selon Mahendra Siregar, la visite du ministre Wheeler a été une réaffirmation de l'engagement de partenariat et de relations amicales entre l'Indonésie et la Grande-Bretagne. En plus des questions bilatérales, ils ont également discuté des efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays sur des questions mondiales et régionales qui sont d'intérêt commun. Cette réunion était un bon signal pour accroître l'intensité de la coopération entre les deux pays dans divers domaines afin d'atteindre la croissance économique et le bien-être des populations. Au cours de la réunion, le vice-ministre Mahendra Siregar a également fait part du projet de l'Indonésie d'accueillir le Forum économique mondial, le Forum Indo-Pacifique sur l'infrastructure et la connectivité de l'ASEAN en juillet 2020. Mahendra a également invité le Royaume-Uni à participer au sommet de l'industrie halal qui s'est tenu à Jakarta à la fin de 2020. La visite de travail de la ministre Heather Wheeler à Jakarta a eu lieu du 13 au 15 janvier 2020. Cette visite en Indonésie était la première fois pour le ministre depuis sa prise de fonction en juillet 2019. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Pernah bisa menjauh dari angan tentangnya, namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia.
Nous allons vous présenter Magazine Culturel.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant Kupat Sableng, la nourriture typique de Brebes. Le ketupat ou kupat est un aliment indonésien typique à base de riz enveloppé dans de jeunes feuilles de noix de coco tissées, soit janur. Cette nourriture est généralement présente dans les célébrations religieuses comme l'Eid al-Fitr et consommée avec d'autres plats d'accompagnement. Les Indonésiens connaissent différents types de ketupat et chaque région a ses propres caractéristiques. Si vous allez à Brebes, Jabasankhal, vous trouverez une variante de la nourriture de ketupat, à savoir kupat sableng. Si vous y allez, essayez de profiter de ses saveurs épicées et savoureuses. Ce culinaire original de Brebes combine ketupat, la sauce au lait de coco et le saté blengong comme accompagnement. Le saté blengong est un saté fabriqué à partir de viande blengong. Blengong est une combinaison de volaille de canard et de mentok, soit canard serati. Initialement, la viande blengong a été marinée avec du lait de coco et poignardée avec un long bâton. Après le suintement des épices, le saté est ensuite brûlé au charbon de bois. Lorsque vous achetez kupat sableng, vous pouvez demander combien de piment sera mélangé dans la sauce de ketupat. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nourriture épicée, vous pouvez demander beaucoup de piment à ajouter. Pour ceux qui ne l'aiment pas, vous avez juste besoin d'un peu de piment. Ou pas du tout. Lorsqu'il est mangé, Il a un goût si typique de bouillon de lait de coco mélangé avec le piquant du délicieux piment de ketupat. Le saté blengong complète le goût avec une texture douce lorsqu'il est mâché. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter de cette cuisine, il existe de nombreux stands de vente de kupat sableng à Brebes. Habituellement, ce kupat est vendu dans l'après-midi jusqu'au soir, car il s'agit d'un menu de nuit. Le prix est relativement bon marché. Ketupat est vendu pour 7000 rupiah, tandis que saté, 5000 rupiah par bâton. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Meskipun telah terucap.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, pour la chanson suivante, écoutons Seul l'amour chanté par Roméo. Et pour la rue suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Ce soir vous allez écouter des étudiants de l'UNS créer des robots de recherche de victimes de catastrophes. Bonne écoute. Chers auditeurs, trois étudiants de l'université Sebelas Maret UNS Solo Java Central ont créé un prototype de robot pour rechercher les victimes de catastrophes naturelles. Les trois étudiants du programme d'études en génie électrique de la faculté de génie sont Nada Shaja Aziza, Sefula Filar Latifa et Taufik Widyastama. Selon l'un des créateurs du prototype Saifula, ils ont appelé ce robot de sauvetage un Mounted Ground Vehicle, UGV. Les avantages peuvent atteindre des zones inaccessibles aux humains. Par exemple, les zones volcaniques encore actives, les zones affectées par les incendies de forêt et les zones exposées à la radioactivité. Sefula a expliqué que le processus de fabrication de ce robot n'a duré que 3 mois. Ce robot a été fabriqué parce que l'Indonésie est située dans une zone sujette aux catastrophes. Selon lui, chaque fois qu'une catastrophe naturelle se produit, il y a encore de nombreuses victimes qui ne peuvent pas être évacuées en raison des conditions de terrain difficiles à atteindre par les humains. Sefula a ajouté que Rescue UGV est équipé d'une caméra et infrarouge afin qu'il puisse détecter la température du corps humain. Les humains sembleront rouge-jaune lorsqu'ils sont détectés en utilisant l'infrarouge. Une caméra infrarouge est utilisée pour détecter la température corporelle. Ainsi, on peut savoir si elle est humaine ou pas, toujours vivante ou décédée. Ensuite, ce robot est contrôlé par un réseau Internet. Cet outil continuera à être développé afin d'augmenter ses capacités à l'avenir. Des émetteurs portables seront utilisés afin de pouvoir être largement utilisés. Aujourd'hui, comme il s'agit toujours d'un prototype, il utilise toujours le réseau Wi-Fi de téléphones mobiles ou de routeurs, de sorte qu'il ne peut fonctionner que jusqu'à 10 mètres. Les roues du robot sont conçues comme des réservoirs et ce prototype est encore de petite taille. Plus tard, le robot sera allongé pour être plus stable lors de la traversée d'un terrain difficile, comme lors d'un glissement de terrain ou dans un ravin. À l'avenir, le robot sera conçu de manière à pouvoir être utilisé pour communiquer dans les deux sens. Actuellement, de nouveaux robots peuvent transmettre le son du terrain. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur des étudiants de l'UNS créer des robots de recherche des victimes de catastrophes. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup et au revoir.
Voice of Indonesia.
sana, buanglah duka, demi cita-cita.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Windu et Devrina » chantée par White Sauce. Chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, de l'Indonésie pour le monde. Pour l'album suivante, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, voici Magazine Musical.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Oudri. Ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Flores, Nusa Tenggara Est, Tebo Leo. Cette chanson est une chanson moderne arrangée par Operita Teking Group, avec la touche de leurs instruments de musique traditionnelle. La nature des gens de Flores qui sont toujours gais, amicaux et francs est rayonnée par cette chanson. Rita Teking Group est un lieu pour les jeunes de Flores afin qu'ils puissent conserver leurs instruments de musique traditionnelle. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Tebo Leo chantée par le groupe Rita Teking. Bonne écoute.
Sahala kolo, harimu tebo leo.
Voice of Indonesia.
Awa iya mana lor bandang, au banda pali au apatu nadea laha kami imanor banda sapi binaka bete malinu oe ena le ia tunga pae mana alor banda
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.